les jardinières.
Ce matin, direction la basse-cour, vous l'aurez compris, nous allons parler de poules et autres bêtes à plumes durant une heure. Et tout ça, bah déjà en compagnie de Brian. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Et nous recevons ce matin Michel Beauvais. Michel, bonjour.
Bonjour Mylène.
Michel Beauvais, vous êtes éleveur de volailles et juge aviculteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous restez avec nous jusqu'à 8h.
Et bon début de week-end avec les jardinières et direction le poulailler.
7h, 8h, les jardinières.
On parle aviculture ce matin chez les jardinières en compagnie de Michel Beauvais. Vous venez du Val-de-Rue, de Chazard. Michel, qu'est-ce qui vous plaît dans l'élevage de volailles, de poules plus précisément ?
Alors, ce qui me plaît, je parle ici des poules de race, c'est bien sûr leur énorme diversité. Chacun peut y trouver ce qu'il cherche, je dirais, au niveau du choix. Et puis ensuite, j'ai toujours considéré la basse-cour, avec ma profession, j'étais enseignant, comme un bon moyen de se ressourcer, d'éliminer un petit peu le stress après une journée de travail. Et il y a d'autres avantages qui m'ont intéressé aussi, c'est la possibilité de consommer des œufs frais, de temps en temps un bon poulet, parce que si on pratique la sélection, c'est inévitable. Et aussi le côté sportif de cette aviculture, c'est-à-dire essayer de sélectionner les sujets pour améliorer la race.
Merci Michel. Dans quelques minutes, vous nous ferez la visite de votre poulailler. Nous sommes venus vous rendre visite chez vous, à Chazard, et vous nous avez parlé de vos poules.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Michel Beauvais, éleveur de volailles et juge avicole à Chazard, dans le canton de Neuchâtel. Et vous l'aurez compris, on parle de poules jusqu'à 8h chez les jardinières.
Et Michel, vous habitez au Val-de-Rue et vous nous avez accueillis chez vous au milieu des poules.
Alors ici j'en ai deux et en bas il y a 4 poulets en coque. Alors c'est Riri et Vivi, on les appelle comme ça à cause de la couleur de leur bague pour qu'on puisse les différencier.
On ne peut pas les reconnaître sinon.
Oui, au plumage on arriverait à les reconnaître, oui.
Vous arrivez à les appeler pour qu'elles reviennent ?
Alors si je prends quelque chose à manger, oui, elles vont revenir, ça c'est sûr.
Elles sont gourmandes.
Très gourmandes, oui.
On va aller voir donc les autres poules. Oui. C'est des poules de quelle race ?
C'est des poules de race Orpington naine.
Quand on achète des œufs, il y en a des bruns, il y en a des blancs. Des fois, on en trouve un peu des bleutés. De quoi ça vient, cette couleur de l'œuf ?
Tout dépend de la race. Les races avec un oreillon, c'est-à-dire ce qui correspond à l'oreille pour simplifier, font des œufs à coquille blanche, les autres des œufs à coquille colorée. Et puis on a une race originaire d'Amérique latine, l'Araucana, et d'autres races qui ont été sélectionnées sur cette base qui font des œufs couleur turquoise, un peu vert, bleuté.
Est-ce que ça change le goût de l'œuf, la couleur de la coquille ?
Pas du tout, non. Alors tout est identique.
Okay.
Et voilà, les Mimi.
Du coup, les autres, elles sont jalouses, là ?
Non, ça va, il n'y a pas tellement de rivalité. Je dirais, elles s'ignorent étonnamment. Les hybrides, elles ont un peu un comportement bien différent des poules de race.
Hybride, ça veut dire quoi exactement ?
Elles ont été uniquement sélectionnées pour la ponte, à partir de deux souches. C'est pour ça qu'on appelle ça des poules hybrides.
On les entend faire des petits bruits de poules. Elles discutent entre elles ?
Oui, elles ont tout un tas de moyens de communiquer, je dirais, des sons différents. Oui, là, on entend le coq qui appelle les poules. Là, elle réclame à manger. Non, elles savent se faire comprendre.
Michel, vous avez deux poules rousses qui ont des petits noms, Riri et Vivi, 4 poules Orpington, si je prononce correctement, un coq de la même race et puis des cailles. Combien d'œufs est-ce que vous pouvez récolter par jour avec cette basse-cour ?
Alors, actuellement, je récolte 2 œufs chez les poules hybrides pratiquement tous les jours. Les Orpington se sont mis en mode pause depuis, je dirais, l'automne. Elles sont relativement âgées, ce qui fait que la ponte n'a pas repris. Là, le panier reste vide. Et les cailles, il y a 4 femelles, c'est régulièrement 3, voire 4 chaque jour.
Et puis pour les personnes qui n'en ont jamais goûté, est-ce que les œufs de caille ont le même goût que les œufs de poule ?
Je dirais que l'œuf de caille est presque plus fin que l'œuf de poule. Il y a une espèce de corrélation. Plus l'œuf est petit, plus sa qualité est bonne. Moi, je le vois avec les œufs de poule naine qui sont meilleurs que les œufs de poule hybride, notamment la grosseur du jaune, mais aussi la finesse du contenu.
Et puis on peut les utiliser pareil qu'un œuf de poule, un œuf de caille ou d'Orpington, c'est tout la même composition ?
Oui, tout à fait. L'œuf de caille, on lui donne beaucoup de vertus, notamment au niveau de sa teneur en oméga 3. Il est notamment recommandé d'en consommer pour des personnes qui souffreraient de problèmes respiratoires, genre asthme. Donc moi, personnellement, je n'ai pas de problème d'asthme, mais chaque matin, je gobe un œuf de caille. Pareil que c'est bon pour la santé, à titre prophylactique.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, les jardinières ont troqué le potager contre la basse-cour. Nous sommes en compagnie de Michel Beauvais, éleveur de volailles et juge avicole à Chézard. Les poules sont des animaux domestiques depuis bien des années. Mais Michel, d'où viennent ces premières poules domestiquées ?
Alors, il a été prouvé que l'ancêtre des poules que l'on connaît actuellement est le coq doré, qu'on appelle couramment le bon kiva, qui vit à l'état sauvage en Asie du Sud-Est et en Chine, pour simplifier. Et la preuve qu'il s'agit bien de l'ancêtre des poules, c'est qu'il a la même variabilité au niveau du plumage, je dirais. Il a les mêmes attributs sur la tête, c'est-à-dire une crête, des barbillons, et qu'il est fécond s'il se croise avec des poules communes. Mais on pense qu'il y a encore une autre espèce, parce qu'il existe 4 espèces de poules sauvages dans ces régions-là, qui a été utilisée, peut-être par hasard, pour donner notamment la couleur argentée dans les plumages et le jaune aux pattes. Et puis la domestication de la poule, puis on va peut-être y venir, elle remonte pratiquement à 8 millénaires dans ces régions, un peu moins en Europe où on date son arrivée vers 600 avant Jésus-Christ, donc 3 millénaires de domestication de la poule. Elle est arrivée probablement par la Grèce, l'Égypte. On sait que les Égyptiens pratiquaient déjà l'incubation artificielle dans d'énormes couvoirs. Et puis ensuite, elle a débarqué en Europe par la Méditerranée, d'où l'appellation de certaines races méditerranéennes. Et il y a une autre voie qui a passé plus au nord, qui a donné les races qui sont de l'Europe du Nord-Ouest.
Donc vous nous expliquez quand est-ce qu'elles ont été domestiquées. Comment est-ce qu'on passe vraiment d'une poule sauvage à une poule domestique comme ça ?
Oui, c'est toujours impressionnant parce que la poule sauvage, elle pèse, je dirais, le poids d'une poule naine, à peu près 1,2 kg, 1,4 kg. Mais elle s'est approchée des installations humaines. C'est là qu'on a trouvé d'ailleurs le plus d'ossements. Et puis, par la nourriture, les gens ont réussi certainement à les capturer. Ils les ont élevés au début, c'était plutôt un animal destiné au sacrifice lors de cultes, puis ensuite au combat de coq. Et finalement, ils se sont dit, on pourrait essayer de garder celles qui pondent le plus, ou voir les sujets qui sont les plus gros. Et puis, la domestication s'est faite de cette façon-là. Mais c'est quand même un point, malgré toutes les études qui ont déjà été faites, qui reste assez mystérieux. Comment passer d'un kilo deux à des races qui font 4 voire 5 kilos?
La gourmandise, peut-être.
Certainement, oui.
Michel, est-ce qu'il y a quelle est la plus ancienne race de poule encore existante aujourd'hui? Comment elle s'appelle?
C'est la Leghorn, pratiquement, ou l'italienne, qui était présente dans toutes les basses-cours, je dirais au siècle passé déjà, enfin, au 19e siècle. Des poules qui étaient amenées souvent par des marchands depuis l'Italie, d'où leur nom, et qui étaient achetées par les agriculteurs. Ce sont les deux races les plus anciennes.
Et puis, est-ce qu'il y a certaines races qui ont disparu ou bien qui sont en voie de disparition ?
Alors, malheureusement, il y a des races qui ont disparu, certainement. D'autres qui sont sérieusement menacées. Parce qu'on a une tendance, je dirais, actuelle dans l'élevage des races, c'est qu'on crée de nouvelles races, d'une part, ce qui est assez difficile, parce qu'on estime toujours qu'il faut au moins 3 caractéristiques différentes pour qu'on puisse parler d'une nouvelle race. Mais on a aussi d'autres variétés de couleurs qui sont créées. Et puis, ça soumet une pression assez forte sur les races anciennes qui sont moins intéressantes quelque part et qui ont tendance à disparaître. Mais heureusement, il y a des associations qui s'occupent de la sauvegarde de ces races menacées.
Et puis, rapidement, Michel, les races de poules, elles ont évolué au fil des siècles. Vous avez dit le poids, déjà, a changé. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements physiques? Elles volaient plus ou elles avaient un plus long bec, des choses comme ça?
Elles volaient beaucoup plus. Et puis, il y a eu de nombreuses mutations, ce qui fait que leur aspect a passablement changé pour certaines races. Bon, certaines races ont perdu leur queue, on a des races sans queue. D'autres ont eu la chance de bénéficier d'un cinquième doigt qui ne sert pas à grand-chose. On a des poules qui ont une barbe, des poules qui ont une huppe. Donc il y a une grande diversité qui s'est créée au fil des ans, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement plus aucune ressemblance. Il n'y a plus qu'une race qui ressemble vraiment à la Bankiva, c'est la naine allemande, qui est une petite poule qui ressemble énormément justement à la poule sauvage d'origine.
Il me semble qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a jamais vu des poules avec des dents.
Pas encore. Pas encore.
Les jardinières.
Ce matin, c'est dans la basse-cour que les jardinières vous emmènent. Nous sommes en compagnie de Michel Beauvais, éleveur de volailles et juge avicole à Chézard, dans le canton de Neuchâtel.
Et en première partie d'émission, nous avons parlé de l'histoire des poules, de leur origine. Si les poules sont maintenant des animaux domestiques, on peut donc en posséder. Michel, si on veut des poules, est-ce que vous avez une race à recommander ?
Alors ça, c'est une question difficile, parce que c'est une question de goût. Si on choisit les hybrides, bon, le choix est vite fait, hein, brun, blanc, noir, la couleur sera déterminante. Pour les poules de race, il faudrait consulter Internet ou visiter une exposition de volailles pour se faire une idée. Mais au départ, moi, je recommanderais une race plutôt simple, je dirais au niveau de la couleur, sans plumeaux, pattes, pas avec des caractéristiques trop sophistiquées, pour qu'on ne soit pas rapidement déçu. Et puis, regardez toujours, c'est une chose que les gens oublient parfois, que la race soit répandue, parce que sinon, pour en trouver, ça va être un véritable casse-tête.
Quand on veut des poules à la maison, combien est-ce qu'il faut en prendre pour un petit élevage familial ?
Alors là, vous avez des normes légales. Donc, le minimum est de 2. Et l'Office vétérinaire fédéral en recommande 3.
Et le coq n'est pas nécessaire.
Le coq n'est pas du tout nécessaire, surtout si vous avez des problèmes de voisinage. Et les poules pondent aussi bien avec ou sans coq.
Et puis au maximum, combien est-ce qu'on peut avoir de poules chez soi ? Vous, par exemple, à Chézard, vous pourriez en avoir combien ?
La limite supérieure, sauf erreur, est de 50. Au-delà, on devient aviculteur professionnel, entre guillemets. Et il faut à ce moment-là avoir un papier plus officiel que l'amateur.
Et puis alors, de quoi est-ce qu'elles ont besoin pour vivre ces poules ?
Il faut leur donner à manger et à boire, mais il faut aussi qu'elles aient un abri, en l'occurrence un poulailler, un parcours clôturé. C'est-à-dire que la loi prévoit aussi que les bêtes doivent être protégées pour éviter les blessures, pour éviter les risques que représentent les prédateurs. Donc il y a un certain nombre d'obligations au niveau de l'équipement. Le poulailler, par exemple, on exige 2 perchoirs, ce qu'on n'a jamais vraiment compris, à des hauteurs différentes. Or, on sait que la poule se perche le plus haut possible, donc le perchoir qui est à la hauteur inférieure ne sert pratiquement à rien.
Donc si on a 2 perchoirs de taille différente, 5-6 poules, elles vont toutes aller sur le même.
S'il y a la place, oui, à coup sûr, oui, tout à fait. Et il faut aussi ne pas oublier que le bain de poussière est obligatoire aussi.
Le bain de
sable, en l'occurrence, plutôt.
Donc, comme une bassine pour les canards, mais avec du sable.
Avec du sable ou de la cendre, des choses comme ça, qu'elles puissent nettoyer leur plumage. Ça, c'est aussi une obligation légale.
Vous avez parlé qu'il fallait clôturer le parc, mais par exemple, si on les laisse en liberté dans notre jardin, c'est quoi les risques, par exemple, dans son potager ?
Bon, les risques, surtout pendant la belle saison, c'est qu'elles consomment un petit peu les produits du jardin, notamment les salades dont elles sont très friandes, qu'elles grattent aussi beaucoup, qu'elles déterrent peut-être certains tubercules. Donc il faudrait, dans l'idéal, si on veut les laisser en liberté, dans un endroit très large, déjà clôturé, pas qu'elles aillent vagabonder dans tout le village, avoir une clôture autour du jardin. Elle n'est pas nécessairement très haute, cette clôture, puisque certaines races volent, je dirais, plutôt mal, donc elles auront de la peine à la franchir.
Et puis, il y a quand même une hauteur minimum pour éviter que les renards sautent par-dessus.
C'est surtout la base qui doit être bien hermétique, parce qu'en hauteur, le renard est assez adroit, il est capable de passer une barrière de 2 mètres de hauteur en grimpant. Donc, il faut essayer de fermer absolument au niveau du sol. Et si vous avez des problèmes de renard, de sérieux problèmes de renard, il faudrait mettre une protection, c'est-à-dire un filet sur le, le dessus. Certaines personnes mettent un fil électrique aussi, genre barrière à vache, pour éviter justement les prédations par le renard.
Et puis, alors, si on décide de prendre des poules, est-ce qu'il faut le signaler aussi à une autorité spéciale ?
Oui, alors, on a l'obligation en Suisse maintenant d'annoncer, dès le moment où on a deux poules, au service vétérinaire cantonal. Vous pouvez faire ça par Internet, il y a une fiche à télécharger qu'on remplit. C'est un moyen de contrôle lorsqu'il y a des épisodes aussi du genre grippe aviaire, pour que les services spécialisés puissent contrôler toutes les basses-cours, toutes les volailles, je dirais plutôt.
On va revenir à la base de la poule, c'est les œufs. Quand on a une poule, c'est quoi la fréquence de la ponte ?
Alors, pour les hybrides, c'est vraiment impressionnant. J'ai noté, parce que ça m'intéressait, mes poules hybrides viennent d'avoir une année, elles ont pondu à L2 707 œufs. Donc, pratiquement 353, ce qui fait, vous voyez, le nombre de jours où il n'y a pas eu d'œufs, hein, ils sont plutôt peu nombreux. Tandis que les poules de race, bon, bah, je dirais, elles pondent la moitié de cela. Ça dépend encore des races, il y en a qui pondent vraiment très peu, notamment les races de combattants, elles font le minimum d'œufs pour assurer la descendance. On ne peut pas tabler là-dessus pour une omelette quotidienne, je dirais. Mais les cailles ont aussi une ponte alors impressionnante. C'est pratiquement aussi un œuf tous les jours.
Et puis, durant combien de temps une poule, est-ce qu'elle peut pondre ?
Alors, je dirais qu'au-delà de 3 ans, la ponte diminue vraiment. Il y a encore quelques œufs, ce qui fait que c'est presque inutile ou éventuellement par nostalgie de les garder au-delà de 3 ans, à moins que ça soit vraiment par sa beauté un sujet exceptionnel qu'on garde en espérant encore pouvoir le faire se reproduire.
Justement, combien de temps peut vivre une poule en moyenne ? Parce que j'imagine que les poules de race et hybrides ne vivent pas la même durée.
On peut compter, je dirais, 7-8 ans en moyenne.
Ah oui, quand même.
D'expérience de vie, oui.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Michel Beauvais, éleveur de volailles et juge avicole à Chézard, dans le canton de Châtel. Michel, il existe beaucoup de races de poules dans le monde, tellement qu'on ne peut peut-être même pas toutes les compter. Quelles sont les races de poules les plus courantes qu'on peut croiser en Suisse ?
Oui, alors là, j'ai pris le classement pour 2024, pour être précis dans ma réponse. Donc, dans les grandes races, vient en tête la Marran. C'est la poule qui pond des œufs extra bruns, la poule aux œufs d'or, comme on l'appelle. Ensuite, la poule suisse, étonnamment, et la penzelloise avec une barbe barbue. Donc. Et dans les naines, c'est la Welsommer, qui est une excellente pondeuse, que je recommande justement à quelqu'un qui voudrait des volailles naines et avoir des œufs aussi, suivi de la Barnevelder, qui présente un peu les mêmes qualités, et du barbu d'Anvers, qui est plutôt une poule ornementale.
Et puis alors, vous l'avez dit, il y a des races suisses de poules, la penzelloise, la poule suisse. Quelles sont leurs particularités au juste ?
Alors, on a 3 races en Suisse, ce qui est relativement peu par rapport aux autres pays. Donc, la penzelloise UP, bon, son nom l'indique, c'est une poule qui est d'ailleurs bien répandue dans toute l'Europe, qui porte une huppe un peu en forme de casque, comme le chapeau du costume à penzellois que les dames portent le dimanche. Mais il faut voir à quoi ça correspond. Donc, c'est une huppe avec une pointe dirigée vers l'avant. Elle a un plumage qui est fait de taches noires sur fond blanc ou jaune. La penzel barbue, c'est plutôt une poule, je dirais un peu du genre poule fermière, avec une belle barbe destinée à protéger ses attributs de tête du froid. C'était pour ça qu'elle a été créée. Et la poule suisse, qui est une poule à mes yeux, un peu ordinaire, puisqu'elle est blanche, avec une crête perlée.
Avec une croix rouge sur le dos.
Oui, c'était un peu l'idée, paraît-il. Il fallait que les couleurs du drapeau suisse soient représentées. C'était l'idée du créateur de la race. Et ces 3 races existent également en naine, c'est-à-dire en petit format.
Michel, vous êtes juge avicole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule votre travail de juge ?
Oui, alors il y a 5 possibilités, 5 accents, je dirais plutôt principaux dans le jugement. C'est tout d'abord l'impression générale du sujet, sa taille, la hauteur sur ses pattes, etc. Ensuite, on a toujours pour chaque race des caractéristiques spécifiques, les caractéristiques raciales. Ça, c'est aussi très important. Ça peut être la huppe, par exemple, pour la peau lapenzelloise ou la barbe. Et ensuite, étonnamment seulement, le plumage, parce que souvent les gens regardent la couleur avant de regarder le reste, sa structure et la couleur du plumage, puis la tête et éventuellement d'autres caractéristiques. Donc, c'est les cinq points que le juge doit observer et doit utiliser dans cet ordre-là. Donc, tout d'abord, l'impression générale, c'est le plus important.
Est-ce qu'il faut un entraînement particulier pour les poules de concours ?
Pour les poules, il faut les habituer dans l'idéal aux boxes d'exposition pour pas qu'elles aillent s'entasser dans un coin et que le juge ne puisse pas faire son travail. Il y a quelques éleveurs qui le font, c'est pas, malheureusement pas la généralité. Et il faut aussi les préparer un tout petit peu, c'est-à-dire les nettoyer, notamment les poules blanches, il faut les laver pour qu'elles éclatent de blancheur, nettoyer les pattes, graisser un petit peu les crêtes et les barbillons, pour qu'elles aient fière allure.
Michel, quelles sont les races qui sont présentées lors de concours ? On imagine que la poule suisse, comme vous avez dit qu'elle était assez commune, on la voit peut-être peu, voire pas du tout.
Alors si je prends ici la dernière exposition sur Neuchâtel, il y en avait 3, sauf erreur. Donc vous voyez que c'est relativement peu. Par contre, il y en avait davantage à l'exposition nationale. Donc les races, il y a une très grande diversité en général dans les expositions. Ce n'est pas les expositions, les grandes expositions allemandes où vous avez des alignées de cages avec une seule race, ce qui entraîne une certaine monotonie. Ici, l'avantage des expositions suisses de petite taille, je dirais, c'est qu'on voit beaucoup de choses différentes.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous avons parlé aviculture en compagnie de Michel Beauvais, éleveur de volailles et juge avicole. Depuis 7 heures, on a parlé de l'histoire des poules, des différentes races et bien sûr de leur habitat. Et ce qui est génial avec les poules quand même, ben, c'est les œufs. Michel, quand on a des poules ou quand on achète des œufs, on ne sait jamais comment les conserver. Alors, vous avez peut-être la bonne réponse. Frigo, pas frigo ?
Alors, j'espère que c'est la bonne réponse, mais... Donc, durant les 3 premières semaines, il ne faut pas les mettre au frigo. Le froid aurait tendance à éliminer la couche protectrice sur la coquille de l'œuf, qui permettrait ensuite aux bactéries de pénétrer dans l'œuf. Ensuite, vous pouvez au bout de 3 semaines, on peut dire que ce sont des œufs encore parfaitement frais. Les 2 semaines qui suivent, il faudrait les placer au frigo. Là, vous pouvez encore les consommer normalement, sans souci. Donc, on est déjà à 35 jours. Et puis ensuite, il faudrait les cuire et les manger durs. Et là, vous éliminez tous les risques potentiels.
Et puis, du côté des concours et des expositions, on peut venir y assister ?
Alors, les expositions sont ouvertes au public, bien sûr. Il n'y a que le jugement qui se fait à huis clos. Il y a des expositions dans la région, notamment la prochaine, qui est l'exposition cantonale Neuchâteloise. Ça vaut la peine d'aller visiter une exposition plutôt importante si on est débutant et qu'on aimerait choisir une race, par exemple. Elle aura lieu les 22 et 23 novembre 2025 à Seignelégier. Étonnant pour une cantonale neuchâteloise, mais c'est une question de place. On a une grande difficulté à trouver des locaux adéquats et c'est pratiquement mission impossible dans le canton de Neuchâtel.
Combien pour avoir de volatiles à cette exposition cantonale en novembre environ ?
Ça peut être autour des, je dirais, 200 sujets.
Ah oui, c'était pour se rendre compte de la place, ça fait quand même beaucoup de monde. Bah, le rendez-vous est pris, vous serez sur place, vous allez juger ces poules ?
Oui, je serai sur place, j'ai été invité au jugement.
Ben c'est noté. Merci beaucoup Michel. On rappelle que vous êtes éleveur et passionné de volaille, juge avicole du côté de Chézard dans le canton de Neuchâtel. Vous en avez parlé de poules ce matin. Vos conseils, vos explications seront à retrouver en cours de matinée en podcast sur notre site. Et puis la photo de Riri et Vivi, vos 2 poules rousses ainsi que les poules Orpington. On va essayer de les mettre en photo aussi. Eh bien, merci pour votre visite et vos conseils.
Merci à vous, merci de l'accueil.
Mais la semaine prochaine, retour du côté du jardin et du potager en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuves. Votre invité répondra à vos questions jardinage.
Il nous reste à vous souhaiter un tout bon week-end. Merci Michel. Et puis bon week-end Brian.
Bon week-end Mylène.
Merci, les jardinières seront de retour donc samedi prochain dès 7h.
7h, 8h. les jardinières.